Albertine disparue, chapitre 2, suite 3. Pour revenir à la visite d'André, après la révélation qu'elle venait de me faire sur ses relations avec Albertine, elle ajouta que la principale raison pour laquelle Albertine m'avait quittée, c'était à cause de ce que pouvaient penser ses amis de la petite bande, et d'autres encore, de la voir ainsi habiter chez un jeune homme avec qui elle n'était pas mariée. « Je sais bien que c'était chez votre mère, mais cela ne fait rien. » Vous ne savez pas ce que c'est que tout ce monde de jeunes filles, ce qu'elles se cachent les unes des autres, comme elles craignent l'opinion des autres. J'en ai vu d'une sévérité terrible avec des jeunes gens, simplement parce qu'ils connaissaient leurs amis et qu'elles craignaient que certaines choses ne fussent répétées. Et celles-là même, le hasard me les a montrées tout autres, bien contre leur gré. Quelques mois plus tôt, ce savoir que paraissait posséder André des mobiles auxquels obéissent les filles de la petite bande m'eût paru le plus précieux du monde. Peut-être ce qu'elle disait suffisait-il à expliquer qu'Albertine, qui s'était donnée à moi ensuite à Paris, se fût refusée à Balbec, où je voyais constamment ses amis. Ce que j'avais l'absurdité de croire un tel avantage pour être au mieux avec elle. Peut-être même était-ce de voir quelque mouvement de confiance de moi avec André, ou que j'eusse imprudemment dit à celle-ci qu'Albertine allait coucher au Grand Hôtel, qui faisait qu'Albertine, qui peut-être une heure avant était prête à me laisser prendre certains plaisirs comme la chose la plus simple, avait eu un revirement et avait menacé de sonner. Mais alors, elle avait dû être facile avec bien d'autres. Cette idée réveilla ma jalousie, et je dis à André qu'il y avait une chose que je voulais lui demander. « Vous faisiez cela dans l'appartement inhabité de votre grand-mère ?»« Oh non, jamais, nous aurions été dérangés !»« Tiens, je croyais, il me semblait... » »« D'ailleurs, Albertine aimait surtout faire cela à la campagne. »«
Où ça ?»
Autrefois, quand elle n'avait pas le temps d'aller très loin, nous allions au but de Chaumont. Elle connaissait là une maison. Ou bien sous les arbres, il n'y a personne. Dans la grotte du Petit Trianon aussi. Vous voyez bien, comment vous croire? Vous m'aviez juré, il n'y a pas un an, n'avoir rien fait au but de Chaumont. J'avais peur de vous faire de la peine. Comme je l'ai dit, je pensais, beaucoup plus tard seulement, qu'au contraire, cette seconde fois, le jour des aveux, André avait cherché à me faire de la peine. Et j'en aurais eu tout de suite, pendant qu'elle parlait, l'idée, parce que j'en aurais éprouvé le besoin si j'avais encore autant aimé Albertine. Mais les paroles d'André ne me faisaient pas assez mal pour qu'il me fût indispensable de les juger immédiatement mensongères. En somme, si ce que disait André était vrai, et je n'en doutais pas d'abord, l'Albertine réelle que je découvrais, après avoir connu tant d'apparences diverses d'Albertine, différait fort peu de la fille orgiaque surgie et devinée, le premier jour, sur la digue de Balbec, et qui m'avait successivement offert tant d'aspects, comme modifie tour à tour la disposition de ses édifices, jusqu'à écraser, à effacer le monument capital qu'on voyait seul dans le lointain. Une ville dont on approche, mais dont finalement, quand on la connaît bien et qu'on la juge exactement, les proportions vraies étaient celles que la perspective du premier coup d'œil avait indiquées. Le reste, par où on avait passé, n'étant que cette série successive de lignes de défense que tout être élève contre notre vision, et qu'il faut franchir l'une après l'autre, au prix de combien de souffrances, avant d'arriver au cœur. D'ailleurs, si je n'eus pas besoin de croire absolument à l'innocence d'Albertine, parce que ma souffrance avait diminué, je peux dire que, réciproquement, si je ne souffris pas trop de cette révélation, c'est que, depuis quelque temps, à la croyance que je m'étais forgée de l'innocence d'Albertine, s'était substituée peu à peu, et sans que je m'en rendisse compte, la croyance, toujours présente en moi, en sa culpabilité. Or, si je ne croyais plus à l'innocence d'Albertine, c'est que je n'avais déjà plus le besoin, le désir passionné d'y croire. C'est le désir qui engendre la croyance. Et si nous ne nous en rendons pas compte d'habitude, c'est que la plupart des désirs créateurs de croyance ne finissent, contrairement à celui qui m'avait persuadé qu'Albertine était innocente, qu'avec nous-mêmes. À tant de preuves qui corroboraient ma version première, j'avais stupidement préféré de simples affirmations d'Albertine. Pourquoi l'avoir cru? Le mensonge est essentiel à l'humanité. Il y joue peut-être un aussi grand rôle que la recherche du plaisir, et d'ailleurs est commandé par cette recherche. On ment pour protéger son plaisir ou son honneur, si la divulgation du plaisir est contraire à l'honneur. On ment toute sa vie, même surtout, peut-être seulement à ceux qui nous aiment. Ceux-là seuls, en effet, nous font craindre pour notre plaisir et désirer leur estime. J'avais d'abord cru Albertine coupable, et seul mon désir, employant à une œuvre de doute les forces de mon intelligence, m'avait fait faire fausse route. Peut-être vivons-nous entourés d'indications électriques, sismiques, qu'il nous faut interpréter de bonne foi pour connaître la vérité des caractères. S'il faut le dire, si triste malgré tout que je fusse des paroles d'André, je trouvais plus beau que la réalité se trouvât enfin concordée avec ce que mon instinct avait d'abord pressenti, plutôt qu'avec le misérable optimisme auquel j'avais lâchement cédé par la suite. J'aimais mieux que la vie fût à la hauteur de nos intuitions. Celle-ci, du reste, que j'avais eue le premier jour sur la plage, quand j'avais cru que ces jeunes filles incarnaient la frénésie du plaisir, le vice, et aussi le soir où j'avais vu l'institutrice d'Albertine faire rentrer cette fille passionnée dans la petite villa, comme on pousse dans sa cage un fauve que rien plus tard, malgré les apparences, ne pourra domestiquer. Ne s'accordait-elle pas à ce que m'avait dit Bloch quand il m'avait rendu la terre si belle en m'y montrant, me faisant frissonner dans toutes mes promenades, à chaque rencontre, l'universalité du désir? Peut-être, malgré tout, ces intuitions premières valait-il mieux que je ne les rencontrasse à nouveau vérifiées que maintenant. Tandis que durait tout mon amour pour Albertine, elles m'eussent trop fait souffrir, et il eût été mieux qu'il n'eût subsisté d'elle qu'une trace, mon perpétuel soupçon de choses que je ne voyais pas, et qui pourtant se passaient continuellement si près de moi. Et peut-être une autre trace encore, antérieure, plus vaste, qui était mon amour lui-même. N'était-ce pas, en effet, malgré toutes les dénégations de ma raison, connaître dans toute sa hideur Albertine que la choisir, l'aimer? Et même dans les moments où la méfiance s'assoupit, l'amour n'en est-il pas la persistance et une transformation? N'est-il pas une preuve de clairvoyance? Preuve inintelligible à l'amant lui-même. Puisque le désir, allant toujours vers ce qui nous est le plus opposé, nous force d'aimer ce qui nous fera souffrir. Il entre certainement dans le charme d'un être, dans l'attrait de ses yeux, de sa bouche, de sa taille, les éléments, inconnus de nous, qui sont susceptibles de nous rendre le plus malheureux. Si bien que nous sentir attirés vers cet être, commencer à l'aimer, c'est, si innocent que nous le prétendions, lire déjà, dans une version différente, toutes ses trahisons et ses fautes. Et ces charmes qui, pour m'attirer, matérialisaient ainsi les parties nocives, dangereuses, mortelles d'un être, Peut-être était-il, avec ses secrets poisons, dans un rapport de cause à effet plus direct que ne le sont la luxuriance séductrice et le suc empoisonné de certaines fleurs vénéneuses. C'est peut-être, me disais-je, le vice lui-même d'Albertine, cause de mes souffrances futures, qui avait produit chez elle ces manières bonnes et franches, donnant l'illusion qu'on avait avec elle la même camaraderie loyale et sans restriction qu'avec un homme. Comme un vice parallèle avait produit chez monsieur de Charlus une finesse féminine de sensibilité et d'esprit. Au milieu du plus complet aveuglement, la perspicacité subsiste sous la forme même de la prédilection et de la tendresse. De sorte qu'on a tort de parler en amour de mauvais choix, puisque dès qu'il y a choix, il ne peut être que mauvais. Est-ce que ces promenades au but de Chaumont eurent lieu quand vous veniez la chercher à la maison ? Dis-je à André. Oh non ! Du jour où Albertine fut revenue de Balbec avec vous, sauf ce que je vous ai dit, elle ne fit plus jamais rien avec moi. Elle ne me permettait même plus de lui parler de ces choses. Mais ma petite André, pourquoi mentir encore ? Par le plus grand des hasards, car je ne cherche jamais à rien connaître, j'ai appris, jusque dans les détails les plus précis, des choses de ce genre qu'Albertine faisait. Je peux vous préciser, au bord de l'eau, avec une blanchisseuse, quelques jours à peine avant sa mort. Ah, peut-être après vous avoir quitté, cela je ne sais pas. Elle sentait qu'elle n'avait pu, ne pourrait plus jamais regagner votre confiance. Ces derniers mots m'accablèrent. Puis je repensais au soir de la branche de seringa. Je me rappelais qu'environ 15 jours après, comme ma jalousie changeait successivement d'objet, j'avais demandé à Albertine si elle n'avait jamais eu de relation avec André, et qu'elle m'avait répondu « Oh, jamais ! Certes, j'adore André. J'ai pour elle une affection profonde, mais comme pour une sœur. Et même si j'avais les goûts que vous semblez croire, c'est la dernière personne à qui j'aurais pensé pour cela. Je peux vous le jurer sur tout ce que vous voudrez, sur ma tante, sur la tombe de ma pauvre mère. » Je l'avais cru. Et pourtant, même si je n'avais pas été mise en méfiance par la contradiction entre ces demi-aveux d'autrefois relativement à certaines choses et la netteté avec laquelle elle les avait niés ensuite, dès qu'elle avait vu que cela ne m'était pas égal, j'aurais dû me rappeler Swann, persuadée du platonisme des amitiés de monsieur de Charlus, et me l'affirmant le soir même du jour où j'avais vu le giletier et le baron dans la cour. J'aurais dû penser qu'il y a l'un devant l'autre deux mondes, l'un constitué par les choses que les êtres les meilleurs, les plus sincères, disent, et derrière lui, le monde composé par la succession de ce que ces mêmes êtres font. Si bien que quand une femme mariée vous dit d'un jeune homme « Oh, c'est parfaitement vrai que j'ai une immense amitié pour lui, mais c'est quelque chose de très innocent, de très pur, je pourrais le jurer sur le souvenir de mes parents. » On devrait soi-même, au lieu d'avoir une hésitation, se jurer qu'elle sort probablement du cabinet de toilette, où, après chaque rendez-vous qu'elle a eu avec ce jeune homme, elle se précipite pour n'avoir pas d'enfant. La branche de seringa me rendait mortellement triste. Et aussi qu'Albertine m'eût cru, m'eût dit fourbe et la détestant. Plus que tout, peut-être, des mensonges si inattendus que j'avais peine à les assimiler à ma pensée. Un jour, Albertine m'avait raconté qu'elle avait été à un camp d'aviation, qu'elle était l'amie de l'aviateur, sans doute pour détourner mon soupçon des femmes, pensant que j'étais moins jaloux des hommes. Que c'était amusant de voir comme André était émerveillé devant cet aviateur, devant tous les hommages qu'il rendait à Albertine, au point qu'André avait voulu faire une promenade en avion avec lui. Or, cela était inventé de toutes pièces. Jamais André n'était allé dans ce camp d'aviation. Quand André fut parti, l'heure du dîner était arrivée. « Tu ne devineras jamais qui m'a fait une visite d'au moins 3 heures, » me dit ma mère. « Je compte 3 heures, c'est peut-être plus. » Elle était arrivée presque en même temps que la première personne, qui était Madame Cottard, a vu successivement, sans bouger, entrer et sortir mes différentes visites. Et j'en ai eu plus de 30. Et ne m'a quitté qu'il y a un quart d'heure. Si tu n'avais pas eu ton ami André, je t'aurais fait appeler.
Mais enfin, qui était-ce?
Une personne qui ne fait jamais de visite.
La princesse de Parme?
Décidément, j'ai un fils plus intelligent que je ne croyais. Ce n'est pas un plaisir de te faire chercher un nom, car tu trouves tout de suite.
Elle ne s'est pas excusée de sa froideur d'hier?
Non, ça aurait été stupide. Sa visite était justement cette excuse. Ta pauvre grand-mère aurait trouvé cela très bien. Il paraît qu'elle avait fait demander vers 2 heures par un valet de pied si j'avais un jour. On lui a répondu que c'était justement aujourd'hui, et elle est montée. Ma première idée, que je n'osais pas dire à maman, fut que la princesse de Parme, entourée la veille de personnes brillantes avec qui elle était très liée et avec qui elle aimait à causer, avait ressenti de voir entrer ma mère un dépit qu'elle n'avait pas cherché à dissimuler. Et c'était tout à fait dans le genre des grandes dames allemandes, qu'avaient du reste beaucoup adopté les Guermantes, cette morgue qu'on croyait réparée par une scrupuleuse amabilité. Mais ma mère crut, et j'ai cru ensuite comme elle, que tout simplement la princesse de Parme ne l'avait pas reconnue, n'avait pas cru devoir s'occuper d'elle, qu'elle avait appris après le départ de ma mère qui elle était. Soit par la duchesse de Guermantes, que ma mère avait rencontrée en bas, soit par la liste des visiteuses auxquelles les huissiers, avant qu'elles entrassent, demandaient leur nom pour l'inscrire sur un registre. Elle avait trouvé peu aimable de faire dire ou de dire à ma mère « Je ne vous ai pas reconnue ». Mais ce qui n'était pas moins conforme à la politesse des cours allemandes et aux façons guermantes que ma première version, avait pensé qu'une visite, chose exceptionnelle de la part de l'Altesse, et surtout une visite de plusieurs heures, fournirait à ma mère, sous une forme indirecte et tout aussi persuasive, cette explication, ce qui arriva en effet. Mais je ne m'attardai pas à demander à ma mère un récit de la visite de la princesse, car je venais de me rappeler plusieurs faits relatifs à Albertine sur lesquels je voulais et j'avais oublié d'interroger André. Combien peu, d'ailleurs, je savais, je saurais jamais de cette histoire d'Albertine, la seule histoire qui m'eût particulièrement intéressée, du moins qui recommençait à m'intéresser à certains moments. Car l'homme est cet être sans âge fixe, cet être qui a la faculté de redevenir en quelques secondes de beaucoup d'années plus jeune, et qui, entouré des parois du temps où il a vécu, y flotte, mais comme dans un bassin dont le niveau changerait constamment et le mettrait à portée tantôt d'une époque, tantôt d'une autre. J'écrivis à André de revenir. Elle ne le put qu'une semaine plus tard. Presque dès le début de sa visite, je lui dis. En somme, puisque vous prétendez qu'Albertine ne faisait plus ce genre de choses quand elle vivait ici, d'après vous, c'est pour les faire plus librement qu'elle m'a quitté ? Mais pour quel ami ? Sûrement pas, ce n'est pas du tout pour cela.
Alors, parce que j'étais trop désagréable ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle a été forcée de vous quitter par sa tante qui avait des vues pour elle sur cette canaille. Vous savez, ce jeune homme que vous appeliez « Je suis dans les choux », ce jeune homme qui aimait Albertine et l'avait demandé. Voyant que vous ne l'épousiez pas, ils ont eu peur que la prolongation choquante de son séjour chez vous n'empêchât ce jeune homme de l'épouser. Madame Bontemps, sur qui le jeune homme ne cessait de faire agir, a rappelé Albertine. Albertine, au fond, avait besoin de son oncle et de sa tante, et quand elle a su qu'on lui mettait le marché en main, elle vous a quitté. Je n'avais jamais, dans ma jalousie, pensé à cette explication, mais seulement au désir d'Albertine pour les femmes et à ma surveillance. J'avais oublié qu'il y avait aussi Madame Bontemps, qui pouvait trouver étrange, un peu plus tard, ce qui avait choqué ma mère dès le début. Du moins, Madame Bontemps craignait que cela ne choquât ce fiancé possible qu'elle lui gardait comme une poire pour la soif, si je ne l'épousais pas. Ce mariage était-il vraiment la raison du départ d'Albertine? Et par amour-propre, pour ne pas avoir l'air de dépendre de sa tante ou de me forcer à l'épouser, n'avait-elle pas voulu le dire? Je commençais à me rendre compte que le système des causes nombreuses d'une seule action, dont Albertine était adepte dans ses rapports avec ses amis, quand elle laissait croire à chacune que c'était pour elle qu'elle était venue, n'était qu'une sorte de symbole artificiel, voulu, des différents aspects que prend une action selon le point de vue où on se place. L'étonnement et l'espèce de honte que je ressentais de ne pas m'être une seule fois dit qu'Albertine était chez moi dans une position fausse qui pouvait ennuyer sa tante, cet étonnement, ce n'était pas la première fois, ce ne fut pas la dernière fois que je l'éprouvais. Que de fois il m'est arrivé, après avoir cherché à comprendre les rapports de deux êtres et les crises qu'ils amènent, d'entendre tout d'un coup un troisième m'en parler à son point de vue à lui, car il a des rapports plus grands encore avec l'un des deux, point de vue qui a peut-être été la cause de la crise. Et si les actes restent ainsi incertains, comment les personnes elles-mêmes ne le seraient-elles pas? À entendre les gens qui prétendaient qu'Albertine était une roublarde qui avait cherché à se faire épouser par tel ou tel, il n'est pas difficile de supposer comment ils eussent défini sa vie chez moi. Et pourtant, à mon avis, elle avait été une victime. Une victime peut-être pas tout à fait pure, mais dans ce cas coupable pour d'autres raisons, à cause de vices dont on ne parlait point. Mais il faut surtout se dire ceci. D'une part, le mensonge est souvent un trait de caractère. D'autre part, chez des femmes qui ne seraient pas sans cela menteuses, il est une défense naturelle, improvisée, puis de mieux en mieux organisée, contre ce danger subi et qui serait capable de détruire toute vie. L'amour. D'autre part, ce n'est pas l'effet du hasard si les êtres intellectuels et sensibles se donnent toujours à des femmes insensibles et inférieures, et tiennent cependant à elles au point que la preuve qu'ils ne sont pas aimés ne les guérit nullement de tout sacrifier à conserver près d'eux une telle femme. Si je dis que de tels hommes ont besoin de souffrir, je dis une chose exacte. En supprimant les vérités préliminaires qui font de ce besoin, involontaire en un sens, de souffrir une conséquence parfaitement compréhensible de ces vérités. Sans compter que, les natures complètes étant rares, un être très sensible et très intellectuel aura généralement peu de volonté, sera le jouet de l'habitude et de cette peur de souffrir dans la minute qui vient, qui voue aux souffrances perpétuelles, et que dans ces conditions, il ne voudra jamais répudier la femme qui ne l'aime pas. On s'étonnera qu'il se contente de si peu d'amour, mais il faudra plutôt se représenter la douleur que peut lui causer l'amour qu'il ressent. Douleur qu'il ne faut pas trop plaindre, car il en est de ces terribles commotions que nous donne l'amour malheureux, le départ, la mort d'une amante, comme de ces attaques de paralysie qui nous foudroient d'abord, mais après lesquelles les muscles tendent peu à peu à reprendre leur élasticité, leur énergie vitale. De plus, cette douleur n'est pas sans compensation. Ces êtres intellectuels et sensibles sont généralement peu enclins au mensonge. Celui-ci les prend d'autant plus au dépourvu que, même très intelligents, ils vivent dans le monde des possibles, réagissent peu, vivent dans la douleur qu'une femme vient de leur infliger, plutôt que dans la claire perception de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle faisait, de celui qu'elle aimait. perception donnée surtout aux natures volontaires et qui ont besoin de cela pour parer à l'avenir au lieu de pleurer le passé. Donc, ces êtres se sentent trompés sans trop savoir comment. Par là, la femme médiocre, qu'on s'étonnait de les voir aimer, leur enrichit bien plus l'univers que n'eût fait une femme intelligente. Derrière chacune de ces paroles, ils sentent un mensonge. Derrière chaque maison où elle dit être allée, une autre maison. Derrière chaque action, chaque être, une autre action, un autre être. Sans doute, ils ne savent pas lesquels, n'ont pas l'énergie, n'auraient peut-être pas la possibilité d'arriver à le savoir. Une femme menteuse, avec un truc extrêmement simple, peut leurrer, sans se donner la peine de le changer, des quantités de personnes. Et qui plus est, la même qui aurait dû le découvrir. Tout cela crée, en face de l'intellectuel sensible, un univers tout en profondeur que sa jalousie voudrait sonder et qui n'est pas sans intéresser son intelligence. Sans être précisément de cela, j'allais peut-être, maintenant qu'Albertine était morte, savoir le secret de sa vie. Mais cela, ces indiscrétions qui ne se produisent qu'après que la vie terrestre d'une personne est finie, ne prouvent-elles pas que personne ne croit, au fond, à une vie future? Si ces indiscrétions sont vraies, on devrait redouter le ressentiment de celle dont on dévoile les actions, autant pour le jour où on la rencontrera au ciel, qu'on le redoutait tant qu'elle vivait, lorsqu'on se croyait tenu à cacher son secret. Et si ces indiscrétions sont fausses, inventées parce qu'elle n'est plus là pour démentir, on devrait craindre plus encore la colère de la morte si on croyait au ciel. Mais personne n'y croit. De sorte qu'il était possible qu'un long drame se fût joué dans le cœur d'Albertine, entre rester et me quitter. Mais que me quitter fût à cause de sa tante ou de ce jeune homme, et pas à cause de femmes auxquelles peut-être elle n'avait jamais pensé. Le plus grave pour moi fut qu'André, qui n'avait pourtant plus rien à me cacher sur les mœurs d'Albertine, me jura qu'il n'y avait pourtant rien eu de ce genre entre Albertine d'une part, Mademoiselle Vinteuil et son amie d'autre part. Albertine ignorait elle-même ses propres goûts quand elle les avait connus, et celle-ci, par cette peur de se tromper dans le sens qu'on désire, qui engendre autant d'erreurs que le désir lui-même, la considérait comme très hostile à ces choses. Peut-être bien, plus tard, avait-elle appris sa conformité de goût avec elle, mais alors elle connaissait trop Albertine, et Albertine les connaissait trop pour qu'elles pussent songer à faire cela ensemble. En somme, je ne comprenais toujours pas davantage pourquoi Albertine m'avait quitté. Si la figure d'une femme est difficilement saisissable aux yeux qui ne peuvent s'appliquer à toute cette surface mouvante, aux lèvres, plus encore à la mémoire, si des nuages la modifient selon sa position sociale, selon la hauteur où l'on est situé, quel rideau plus épais encore est tiré entre les actions de celle que nous voyons et ses mobiles? Les mobiles sont dans un plan plus profond que nous n'apercevons pas, et engendrent d'ailleurs d'autres actions que celles que nous connaissons, et souvent en absolue contradiction avec elles. À quelle époque n'y a-t-il pas eu d'homme public, cru un saint par ses amis, et qui soit découvert avoir fait des faux, volé l'État, trahi sa patrie? Que de fois un grand seigneur est volé par un intendant qui l'a élevé, dont il eût juré qu'il était un brave homme, et qu'il était peut-être. Or, ce rideau tiré sur les mobiles d'autrui, combien devient-il plus impénétrable si nous avons de l'amour pour cette personne, car il obscurcit notre jugement, et les actions aussi de celles qui, se sentant aimées, cessent tout d'un coup d'attacher du prix à ce qui en aurait eu sans cela pour elle, comme la fortune par exemple. Peut-être aussi est-elle poussée à feindre en partie ce dédain de la fortune dans l'espoir d'obtenir plus en faisant souffrir. Le marchandage peut aussi se mêler au reste. De même, des faits positifs de sa vie. Une intrigue qu'elle n'a confiée à personne, de peur qu'elle ne nous fût révélée, que beaucoup, malgré cela, auraient peut-être connue s'ils avaient eu de la connaître le même désir passionné que nous. En gardant plus de liberté d'esprit, en éveillant chez l'intéressé moins de suspicion, une intrigue que certains peut-être n'ont pas ignorée, mais certains que nous ne connaissons pas et que nous ne saurions où trouver. Et parmi toutes les raisons d'avoir avec nous une attitude inexplicable, il faut faire entrer ces singularités du caractère qui poussent un être, soit par négligence de son intérêt, soit par haine, soit par amour de la liberté, soit par de brusques impulsions de colère, ou par crainte de ce que penseront certaines personnes, à faire le contraire de ce que nous pensions. Et puis, il y a les différences de milieu, d'éducation, auxquelles on ne veut pas croire, parce que, quand on cause tous les deux, on les efface par les paroles, mais qui se retrouvent, quand on est seul, pour diriger les actes de chacun d'un point de vue si opposé qu'il n'y a pas de véritable rencontre possible. Mais ma petite Andrée, vous mentez encore, rappelez-vous, vous-même me l'avez avoué. Je vous ai téléphoné la veille, vous rappelez-vous, qu'Albertine avait tant voulu, et en me le cachant comme quelque chose que je ne devais pas savoir, aller à la matinée vers Durin où Mademoiselle Vinteuil devait venir. Oui, mais Albertine ignorait absolument que Mademoiselle Vinteuil dût y venir. Comment ? Vous-même m'avez dit que quelques jours avant, elle avait rencontré Madame Verdurin. D'ailleurs, Andrée, inutile de nous tromper l'un l'autre. J'ai trouvé un papier un matin dans la chambre d'Albertine. Un mot de Madame Verdurin la pressant de venir à la matinée. Et je lui montrai le mot qu'en effet Françoise s'était arrangée pour me faire voir en le plaçant tout au-dessus des affaires d'Albertine, quelques jours avant son départ. Et je le crains, en le laissant là pour faire croire à Albertine que j'avais fouillé dans ses affaires, pour lui faire savoir en tout cas que j'avais vu ce papier. Et je m'étais souvent demandé si cette ruse de Françoise n'avait pas été pour beaucoup dans le départ d'Albertine, qui, voyant qu'elle ne pouvait plus rien me cacher, se sentait découragée, vaincue. Je lui montrai le papier. Mais je n'ai aucun remords, tout excusé par ce sentiment si familial. Vous savez bien, Andrée, qu'Albertine avait toujours dit que l'amie de Mademoiselle Vinteuil était, en effet, pour elle une mère, une sœur. Mais vous avez mal compris ce billet. La personne que Madame Verdurin voulait ce jour-là faire rencontrer chez elle avec Albertine, ce n'était pas du tout l'ami de Mademoiselle Vinteuil. C'était le fiancé, je suis dans les choux. Et le sentiment familial est celui que Madame Verdurin portait à cette crapule, qui est en effet son neveu. Pourtant, je crois qu'ensuite Albertine a su que Mademoiselle Vinteuil devait venir, car Madame Verdurin avait pu le lui faire savoir accessoirement. Certainement, l'idée qu'elle reverrait son amie lui avait fait plaisir, lui rappelait un passé agréable. Mais comme vous seriez content, si vous deviez aller dans un endroit, de savoir qu'elle stiriait, mais pas plus, pas même autant. Non, si Albertine ne voulait pas dire pourquoi elle voulait aller chez Madame Verdurin, c'est qu'il y avait une répétition où Madame Verdurin avait convoqué très peu de personnes, parmi lesquels ce neveu à elle que vous aviez rencontré à Balbec, que Madame Bontemps voulait faire épouser à Albertine, et avec qui Albertine voulait parler. C'est une jolie canaille. Ainsi, Albertine, contrairement à ce qu'avait cru autrefois la mère d'Andrée, avait eu, somme toute, un beau parti bourgeois. Et quand elle avait voulu voir Madame Verdurin, quand elle lui avait parlé en secret, quand elle avait été si fâchée que j'y fusse allée en soirée sans la prévenir, l'intrigue qu'il y avait entre elle et Madame Verdurin avait pour objet de lui faire rencontrer, non Mademoiselle Vinteuil, mais le neveu qui aimait Albertine, et pour qui Madame Verdurin s'entremettait, avec cette satisfaction de travailler à la réalisation d'un de ses mariages qui surprennent de la part de certaines familles dans la mentalité de qui on n'entre pas complètement, croyant qu'elles tiennent à un mariage riche. Or, jamais je n'avais repensé à ce neveu qui avait peut-être été le déniaiseur grâce auquel j'avais été embrassée la première fois par elle. Et à tout le plan des mobiles d'Albertine que j'avais construit, il fallait en substituer un autre, ou le lui superposer, car peut-être il ne l'excluait pas, le goût pour les femmes n'empêchant pas de se marier. « Et puis, il n'y a pas besoin de chercher tant d'explications !» ajouta André. « Dieu sait combien j'aimais Albertine et quelle bonne créature c'était, mais surtout depuis qu'elle avait eu la fièvre typhoïde, une année avant que vous ayez fait notre connaissance à toutes. C'était un vrai cerveau brûlé. Tout à coup, elle se dégoûtait de ce qu'elle faisait. Il fallait changer à la minute même, et elle ne savait sans doute pas elle-même pourquoi. » Vous rappelez-vous la première année où vous êtes venu à Balbec, l'année où vous nous avez connus? Un beau jour, elle s'est fait envoyer une dépêche qui la rappelait à Paris. C'est à peine si on a eu le temps de faire ses malles. Or, elle n'avait aucune raison de partir. Tous les prétextes qu'elle a donnés étaient faux. Paris était assommant pour elle à ce moment-là. Nous étions toutes encore à Balbec. Le golfe n'était pas fermé, et même les épreuves pour la grande coupe qu'elle avait tant désirée n'étaient pas finies. Sûrement c'est elle qui l'aurait eue. Il n'y avait que 8 jours à attendre. Eh bien, elle est partie au galop. Souvent, je lui en avais reparlé depuis. Elle disait elle-même qu'elle ne savait pas pourquoi elle était partie, que c'était le mal du pays. Le pays, c'est Paris, vous pensez, c'est probable. Qu'elle se déplaisait à Balbec, qu'elle croyait qu'il y avait des gens qui se moquaient d'elle. Et je me disais qu'il y avait cela de vrai dans ce que disait André, que si des différences entre les esprits expliquent les impressions différentes produites sur telle ou telle personne par une même œuvre, les différences de sentiments, l'impossibilité de persuader une personne qui ne vous aime pas, il y a aussi les différences entre les caractères, les particularités d'un caractère, qui sont aussi une cause d'action. Puis je cessais de songer à cette explication, et je me disais combien il est difficile de savoir la vérité dans la vie. J'avais bien remarqué le désir et la dissimulation d'Albertine pour aller chez Madame Verdurin, et je ne m'étais pas trompée. Mais alors même qu'on tient ainsi un fait, des autres, on ne perçoit que l'apparence, car l'envers de la tapisserie, l'envers réel de l'action, de l'intrigue, aussi bien que celui de l'intelligence, du cœur, se dérobe, et nous ne voyons passer que des silhouettes plates dont nous nous disons « c'est ceci, c'est cela, c'est à cause d'elle ou de telle autre ». La révélation que Mademoiselle Vinteuil devait venir m'avait paru l'explication d'autant plus logique qu'Albertine, allant au-devant, m'en avait parlé. Et plus tard, n'avait-elle pas refusé de me jurer que la présence de Mademoiselle Vinteuil ne lui faisait aucun plaisir? Et ici, à propos de ce jeune homme, je me rappelais ceci que j'avais oublié. Peu de temps auparavant, pendant qu'Albertine habitait chez moi, je l'avais rencontré, et il avait été, contrairement à son attitude à Balbec, excessivement aimable, même affectueux avec moi, m'avait supplié de le laisser venir me voir, ce que j'avais refusé pour beaucoup de raisons. Or, maintenant je comprenais que, tout bonnement, sachant qu'Albertine habitait la maison, il avait voulu se mettre bien avec moi pour avoir toute facilité de la voir et de me l'enlever. Et je conclus que c'était un misérable. Quelque temps après, lorsque furent jouées devant moi les premières œuvres de ce jeune homme, sans doute je continuais à penser que s'il avait tant voulu venir chez moi, c'était à cause d'Albertine. Et tout en trouvant cela coupable, je me rappelais que jadis, si j'étais partie pour Doncières, voir Saint-Loup, c'était en réalité parce que j'aimais Madame de Guermantes. Il est vrai que le cas n'était pas le même, Saint-Loup n'aimant pas Madame de Guermantes. si bien qu'il y avait dans ma tendresse peut-être un peu de duplicité, mais nulle trahison. Mais je songeais ensuite que cette tendresse qu'on éprouve pour celui qui détient le bien que vous désirez, on l'éprouve aussi si ce bien, celui-là, le détient même en l'aimant pour lui-même. Sans doute, il faut alors lutter contre une amitié qui conduira tout droit à la trahison. Et je crois que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais pour ceux qui n'en ont pas la force, on ne peut pas dire que chez eux, l'amitié qu'ils affectent pour le détenteur soit une pure ruse. Ils l'éprouvent sincèrement, et à cause de cela, la manifestent avec une ardeur qui, une fois la trahison accomplie, fait que le mari ou l'amant trompé peut dire avec une indignation stupéfiée « Si vous aviez entendu les protestations d'affection que me prodiguait ce misérable, qu'on vienne voler un homme de son trésor, je le comprends encore, mais qu'on éprouve le besoin diabolique de l'assurer d'abord de son amitié, c'est un degré d'ignominie et de perversité qu'on ne peut imaginer. » Or, il n'y a pas là une telle perversité, ni même mensonge tout à fait lucide. L'affection de ce genre que m'avait manifesté ce jour-là le pseudo-fiancé d'Albertine avait encore une autre excuse, étant plus complexe qu'un simple dérivé de l'amour pour Albertine. Ce n'est que depuis peu qu'il se savait, qu'il s'avouait, qu'il voulait être proclamé un intellectuel. Pour la première fois, les valeurs autres que sportives ou noceuses existaient pour lui. Le fait que j'eusse été estimé d'Elstir, de Bergotte, qu'Albertine lui eût peut-être parlé de la façon dont je jugeais les écrivains, et dont elle se figurait que j'aurais pu écrire moi-même, faisait que tout d'un coup j'étais devenu pour lui, pour l'homme nouveau qu'il s'apercevait enfin être, quelqu'un d'intéressant avec qui il eût eu plaisir à être lié, à qui il eût voulu confier ses projets, peut-être de le présenter à Elstir. De sorte qu'il était sincère en demandant à venir chez moi, en m'exprimant une sympathie ou des raisons intellectuelles en même temps qu'un reflet d'Albertine mettait de la sincérité. Sans doute ce n'était pas pour cela qu'il tenait tant à venir chez moi, et il eût tout lâché pour cela. Mais cette raison dernière, qui ne faisait guère qu'élever à une sorte de paroxysme passionné les deux premières, il l'ignorait peut-être lui-même, et les deux autres existaient réellement, comme avait pu réellement exister chez Albertine. Quand elle avait voulu aller l'après-midi de la répétition chez Madame Verdurin, le plaisir parfaitement honnête qu'elle aurait eu à revoir des amies d'enfance, qui pour elle n'étaient pas plus vicieuses qu'elle n'était pour celle-ci, à causer avec elle, à leur montrer, par sa seule présence chez les Verdurin, que la pauvre petite fille qu'elles avaient connue était maintenant invitée dans un salon marquant. Le plaisir aussi qu'elle aurait peut-être eu à entendre de la musique de Vinteuil. Si tout cela était vrai, la rougeur qui était venue au visage d'Albertine quand j'avais parlé de Mademoiselle Vinteuil venait de ce que je l'avais fait à propos de cette matinée qu'elle avait voulu me cacher à cause de ce projet de mariage que je ne devais pas savoir. Le refus d'Albertine de me jurer qu'elle n'aurait eu aucun plaisir à revoir à cette matinée Mademoiselle Vinteuil avait à ce moment-là augmenté mon tourment, fortifié mes soupçons, mais me prouvait rétrospectivement qu'elle avait tenu à être sincère, et même pour une chose innocente, peut-être justement parce que c'était une chose innocente. Il restait ce qu'André m'avait dit sur ses relations avec Albertine. Peut-être pourtant, même sans aller jusqu'à croire qu'André les inventait entièrement pour que je ne fusse pas heureux et ne puisse pas me croire supérieur à elle, pouvais-je encore supposer qu'elle avait un peu exagéré ce qu'elle faisait avec Albertine, et qu'Albertine, par restriction mentale, diminuait aussi un peu ce qu'elle avait fait avec André, se servant systématiquement de certaines définitions que stupidement j'avais formulées sur ce sujet, trouvant que ses relations avec André ne rentraient pas dans ce qu'elle devait m'avouer et qu'elle pouvait les nier sans mentir. Mais pourquoi croire que c'était plutôt elle qu'André qui mentait? La vérité et la vie sont bien ardues, et il me restait d'elle, sans qu'en somme je les connusse, une impression où la tristesse était peut-être encore dominée par la fatigue. Quant à la troisième fois où je me souviens d'avoir eu conscience que j'approchais de l'indifférence absolue à l'égard d'Albertine, et cette dernière fois jusqu'à sentir que j'y étais tout à fait arrivée, ce fut un jour à Venise, assez longtemps après la dernière visite d'André.